On est toujours sur les ondes de Choc FM 105.1 et aujourd'hui nous retrouvons Corinne Barranger qui est notre chroniqueuse en développement durable. Donc aujourd'hui Corinne va nous faire voyager un petit peu. Déjà bonjour Corinne.
Bonjour Raquel.
Vous allez bien ?
Ça va bien, merci.
Oui, on est content de vous avoir sur les ondes de Choc FM. Alors Corinne, aujourd'hui nous allons parler du Japon.
Tout à fait. Oui.
N'est-ce pas ? Donc juste pour mettre un peu les auditeurs dans le contexte, donc après Fukushima, le Japon a décidé de fermer ses 50 centrales nucléaires et de se tourner vers les énergies renouvelables, etc. Mais il y a un gros challenge en fait, c'est que le pays est petit et il y a beaucoup d'habitants. Donc c'est 377 milliers de kilomètres carrés à peu près avec 128 millions d'habitants. Ce qui veut dire qu'il faut multiplier la population, c'est comme si on multipliait la population de l'Ontario par 10 et qu'on la logeait sur un tiers de la surface de la province. Donc en gros c'est un peu compliqué, n'est-ce pas Corinne ?
Tout à fait, oui, c'est vraiment compliqué pour eux.
Donc Corinne, donc comment déjà, quelles sont les sources d'énergie utilisées par le Japon avant et après Fukushima ?
Alors, en fait, le Japon avait une structure énergétique à peu près classique, hein, avec du gaz naturel, du charbon, de l'énergie nucléaire, de l'hydro et une grosse part du pétrole, comme beaucoup de pays dans le monde. Donc c'est pour ça, c'est un peu un modèle de ce que l'on voit maintenant partout dans le monde, puisqu'ils étaient alimentés à hauteur de 40% en pétrole. Et donc la stratégie aujourd'hui, c'est vraiment essayer de se débarrasser de ce pétrole qui gêne tout le monde en fait, parce que ça crée une dépendance vis-à-vis de certains pays extérieurs, et eh bien on est trop vulnérable au coût. Comme vous le savez probablement, le coût a énormément baissé ces dernières années et ça a été vraiment très haut. C'est un peu en fonction de la politique, un certain nombre de facteurs. C'est pas forcément simplement le coût du carburant. Donc après Fukushima, là c'est vrai qu'il y a eu un gros, électrochoc au niveau du pays, mm-hmm. qui a fait que les gens ont pris conscience que le nucléaire c'était dangereux. Mais c'est pas aussi simple que ça, parce que comme vous le disiez, donc la population est très importante. Donc ils ont bâti un plan pour le futur, donc pour évoluer, pour inclure un peu plus d'énergie renouvelable. Donc jusque dans les années 2010, ils étaient à 1%, et donc on veut faire évoluer cela pour arriver à 22 ou 24% de l'énergie.
Wow.
Et cependant, ce qu'il faut pas nier, c'est que donc ils vont continuer à utiliser du charbon, ce qui n'est pas très propre non plus, mais bon, en essayant d'en diminuer un petit peu la proportion, augmenter la proportion en gaz et conserver aussi le nucléaire. Et d'ailleurs, ils ont commencé à réouvrir certaines centrales. Et le nucléaire fait toujours partie de 20 à 22% dans leur plan. D'évolution de mix énergétique. Et par contre, ce qui est énormément réduit, c'est le pétrole. Le pétrole qui descend à 3% de leur source énergétique. Donc on passe de 40 à 3. Ça, c'est vraiment énorme. Et donc, au niveau des énergies renouvelables, donc ils comptent faire un mixte entre l'éolien, le solaire, le géothermal, l'hydro, et ce qui est un peu émergent en ce moment, ce qu'on appelle la biomasse, hein, la bioénergie, donc la méthanisation en fait, hein, des déchets organiques. Et donc ce que l'on voit comme évolution, c'est vraiment le point fort donc sur le pétrole et l'augmentation des énergies renouvelables. Cependant, ces énergies renouvelables, donc ils pensaient que ça allait un petit peu aller un peu plus vite que, mais ça a quand même du mal à décoller parce
ah
que
ouais.
C'est vrai que bon, ça fait des années qu'on y travaille, mais les énergies renouvelables, on le voit dans de nombreux pays, donc les oppositions qu'il y a. Bon, alors il y a certains pays comme par exemple le Costa Rica qui maintenant est complètement en énergie renouvelable, mais il y a les gros pays, les populations, les pays à forte population ont vraiment beaucoup de problèmes parce que des éoliennes ça dérange, les panneaux solaires. C'est pas le top de la technologie, on sent qu'il y a de l'amélioration à avoir, le stockage de l'énergie, il y a encore beaucoup de défis par rapport aux énergies renouvelables et ça décolle pas vraiment de la façon dont ils le souhaiteraient. Mais leur objectif est quand même pour 2030 arriver à 22%. Donc ils viennent de créer, ils ont démarré et mis, je crois, en œuvre la première, ce qu'ils appellent la Kagoshima Nanatsujima Mega Solar Power Plant, qui est en fait une centrale solaire, mais comme vous l'avez dit, la surface est assez petite, donc cette centrale solaire est sur les eaux, et carrément, sur de l'eau, et va pouvoir fournir 70 mégatonnes, mégawatts de sources d'énergie, mais donc ça c'est une première phase, ça permettrait d'alimenter à peu près 22 000 foyers. Mais il y a, comme je vous dis, il y a encore beaucoup de challenges à ce niveau-là.
Waouh, j'imagine. En tout cas, c'est des grands objectifs là d'ici 2030. Donc ça veut dire que Corinne, pour les prochaines années, à quel genre de ville on peut s'attendre, enfin, quel genre de ville on verra se développer au Japon, selon vous ?
Alors, a priori, donc les Japonais sont très consommateurs d'énergie. C'est pour ça qu'ils ont vraiment ce problème énergétique, hein, qu'ils ont poussé pour réouvrir assez vite les centrales nucléaires. Parce que sont quand même les deuxièmes consommateurs à titre individuel après les États-Unis en matière d'énergie. Comme vous le savez, le Japon, on le représente quand même beaucoup avec les robots, les tablettes, donc beaucoup de consommation d'énergie. Donc j'avais fait une précédente chronique sur les différents types de villes qu'on pouvait voir émerger dans le futur. Et donc il y en avait une qui s'appelait Planet City. Mmh. Et donc là, tout s'organise en fait autour de la convivialité, ce qu'on appelle la convivialité numérique. Tout est connecté en fait. Tout est piloté par un système intelligent qui va vous guider dans la ville, qui va à la maison. On peut imaginer donc des murs avec sur lesquels vous allez taper pour obtenir telle information. Voilà, donc ça c'est un peu le style de ville, hein, je parle bien des mm-hmm. villes, hein, que l'on peut voir se développer a priori au Japon, quoi.
Ok. Et donc pour une famille typique japonaise, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire ça au quotidien ? Qu'est-ce que ça signifie pour eux ?
Alors là, récemment, ça fait quand même quelques années, ils ont mis en œuvre ce qu'on appelle un Home Energy Management System, qui commence à se développer aussi à l'international, hein. C'est quelque chose qui va assez vite. Alors, ben, c'est simplement un ordinateur. Vous êtes ce qu'on appelle les maisons intelligentes, en fait. Okay. Où vous avez un ordinateur, vous avez une tablette, et à partir de votre tablette, vous allez pouvoir piloter tout dans votre maison. Mais non seulement ça. Donc là, vous êtes acteur, vous changez, vous levez les volets, vous ajustez le chauffage, wow, etc. Donc là, dans le Home Energy Management System, c'est la maison elle-même qui adapte sa consommation d'énergie en fonction des besoins. Ça veut dire que vous entrez dans une pièce, la lumière s'allume, les appareils se mettent en marche. Vous quittez la pièce, tout s'éteint.
Wow.
Vous n'avez pas besoin de toucher à quelque chose. C'est détection de présence. Donc ça met en œuvre un certain nombre d'outils qui sont utiles à faire fonctionner la maison et à optimiser en fait la consommation en énergie de la maison dans son entier, quoi. Et donc on peut imaginer aussi la gestion des ressources comme les frigos intelligents, hein, qui vont vous dire ce qui manque ou ce qui commence à être périmé. Voilà, donc on voit ça un peu dans certains... Ça rappelle un peu certains films de science-fiction.
C'est ça, oui.
Mais je pense que on y arrive dans certains endroits, pour certaines technologies, c'est vraiment quelque chose qui arrive maintenant. Bien sûr, le nettoyage, bon, on le connaît déjà, ça, hein, les petits robots... nettoyeurs qui vont nettoyer votre moquette ou votre parquet... pendant que vous n'êtes pas là. Ils ont même, là j'ai vu récemment, donc pour les vitres maintenant aussi, vous pouvez faire ça.
Ah oui.
Donc vous pouvez nettoyer toute votre maison en fait, en gros. Donc c'est la nourriture, c'est donc là, plus besoin vraiment de la personne en fait pour s'en occuper. Pour là j'ai même vu donc au Japon une initiative. Bon, est-ce que ça va se généraliser ? Donc, vous avez une penderie et vous mettez vos vêtements. Mmh. Et les vêtements sont en espèce... Vous savez, comme si vous les mettiez dans un plastique, en fait, Et donc, quand vous mettez donc ce vêtement dans votre penderie, il se nettoie automatiquement, quoi. Wow. Ça enlève les taches et votre vêtement, vous le ressortez, il est propre, quoi. Wow. Donc, vous n'avez plus besoin de machine à laver, quoi. Wow. Donc, vous voyez, non, mais vraiment, on peut tout imaginer, quoi, en termes de technologie. Wow. Ça, c'est... Alors, ils vont plus loin que ça, c'est que, en termes, par exemple, vous imaginez qu'il y a une panne de courant, soudain, donc, bien sûr, vous avez une voiture électrique, hein, vous êtes dans un contexte de développement durable, vous avez une voiture électrique, donc vous pouvez vous approvisionner, donc il y a des bornes où vous pouvez vous approvisionner sur la voiture pour faire marcher votre grille-pain ou, wow. ou autre chose dans la maison, quoi. Donc, voilà, c'est un peu, donc, voilà. C'est un peu comme ça que l'on voit la maison, un peu au Japon. Hein. C'est un peu les systèmes qui sont promus, en tous les cas, dans les grands salons.
Waouh, c'est vraiment impressionnant. Là. Ça me fait vraiment penser aux films, enfin, les films du futur, là, j'imagine.
Ah oui, tout à fait. Ouais.
Donc, Corinne, ça, en termes d'architecture, c'est quoi la nouvelle tendance adoptée par les Japonais?
Alors justement, donc on allie donc cette maison intelligente, mais en même temps, on aime aussi les maisons traditionnelles. Alors les maisons traditionnelles japonaises avaient en bois, avec les portes coulissantes là et donc le papier hein, japonais. Donc en fait, on se sert donc ces maisons. En fait, avec ces portes, permettent de moduler la maison. Hein, vous savez, les lits sont des futon que l'on déplie le soir, etc. Donc, on module la maison en fonction de son utilisation, et aussi ça permet de gérer la consommation d'énergie. Par exemple, quand je parle des portes coulissantes, par exemple, vous pouvez faire rentrer la lumière, la chaleur dans la journée avec le soleil. Les maisons, bien sûr, exposées au soleil. On expose majoritairement les maisons au sud. Et la nuit, pour garder cette chaleur, on tire une porte coulissante qui va permettre de conserver un peu mieux la chaleur. Ces espaces aussi, entre la porte coulissante et la structure extérieure, va permettre une circulation d'air dans la maison qui va mieux répartir la chaleur, mieux répartir aussi pour la qualité de l'air, hein, pour les polluants, pour tout ce qui peut circuler dans l'air. J'ai vu une invention qui me semble intéressante, de créer une espèce de vortex, c'est-à-dire que pour justement générer cette circulation d'air, au milieu de la maison, il y a un escalier avec en haut, vous imaginez une petite tourelle, enfin, où on a mis 6 fenêtres qui sont des fenêtres à bascule. Okay. Et qui s'oriente en fonction du vent, enfin qui s'oriente en fonction du vent. C'est-à-dire que si le vent souffle contre une fenêtre, la fenêtre se ferme. Donc l'air ne rentre pas dans la maison. Okay. Par contre, ça va générer une espèce de vortex qui va permettre à la fenêtre à l'opposé de s'ouvrir et de permettre d'évacuer l'air qu'il y a dans la maison.
Wow. Vraiment.
Donc ça crée un système de climatisation naturelle en fait. Okay. C'est vraiment très intéressant, je trouve ça vraiment intéressant.
Ouais, ils sont vraiment à l'avant-garde de tout ce qui est technologie, etc., hein, au Japon.
Ah oui, et là, adapté en fait à leur architecture traditionnelle. C'est ça, l'autre chose qui se fait au Japon, c'est que autrefois on aspergeait d'eau l'extérieur de la maison quand il faisait très chaud. Ça permettait de créer comme ça une espèce de halo de vapeur pour rafraîchir. Et donc on met ça maintenant en œuvre sur le toit. Donc ça permet de comme ça et d'une façon mécanique et sans utiliser d'énergie forcément ou un minimum de rafraîchir la maison. Donc des solutions, il y a plein de solutions. En fait, qui existent. Il y a plein de solutions innovantes qui permettent, sans utiliser des tonnes d'énergie, de faire les choses, quoi. Alors, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Enfin, c'est un peu l'image du Japon, le côté traditionnel et le côté haute technologie, en fait. La haute technologie, en ce qui me concerne, me fait un petit peu peur.
Moi aussi, je vais avouer.
Parce que on se demande à quel degré à un moment comment quelle est la responsabilité quelle responsabilité reste à l'homme, quoi. Ouais, ouais, et ouais. C'est pour ça que ça, c'est tout un autre sujet. Mais est-ce qu'à l'avenir, on va payer les gens à rester chez eux puisqu'il n'y aura plus de travail? C'est vraiment des grandes questions que l'on voit émerger en ce moment pas mal autour de la COP21. Et ça, il y a eu pas mal de débats à ce sujet-là. Vraiment plein d'autres sujets très intéressants à explorer en tous les cas.
Ouais. Bah super, merci beaucoup Corinne. J'ai appris beaucoup de choses là ce matin. Là, je m'imagine vraiment déjà dans les maisons futuristiques où est-ce qu'on fait rien, tout sauf pour nous, etc. Bah merci beaucoup Corinne.
Pas de problème, bonne journée.
Merci. Nous on reste sur les ondes de Choc FM 105.1.